Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à chacun, bonjour à tous. Je voudrais vous conduire, si vous le permettez, eh bien, dans une réflexion, un message qui a toute son originalité, et je voudrais avancer tout de suite eh bien, un texte que nous allons prendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, et c'est un texte qui est eh bien, connu, naturellement, des familiers de l'Écriture sainte. Et je vais donc partager avec vous eh bien, ce passage tout simple, comme je viens de le dire. Alors, je répète, Genèse chapitre 4, verset 4, où nous pouvons commencer tout simplement eh bien, au verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur grain, de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voilà la situation sur laquelle nous allons pouvoir eh bien, parler. Alors, ce que je voudrais dire dès le départ, c'est que c'est véritablement eh bien, l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance a naturellement eh bien, une racine, elle a des fondements, qui est la parole de Dieu. Et nous allons, parce que Dieu a parlé, Dieu a dit. Alors ce que je voudrais préciser en ce qui concerne d'abord Abel, son nom signifie « souffle ». Et peut-être ce nom a été donné postérieurement, parce que sa vie a été quand même relativement courte, et on en connaît naturellement les raisons. Quant à Caïn, ça veut dire tout simplement eh bien, « acquisition ». C'est ce que nous avons lu, « j'ai acquis de Dieu eh bien, ce premier-né ». Alors, voilà deux personnages énigmatiques, parce que, naturellement, il y a là, naturellement, peut-être un mystère derrière, qui nous renseigne sur les origines, eh bien, ce que nous pourrions appeler les violences et la mort sur la terre. Ça, c'est une question, naturellement, de toujours, qui a été, en effet, véritablement un tourment pour les hommes. Pourquoi la violence? Pourquoi la mort, puisqu'il s'agit de cela, dans l'histoire des hommes et à travers tous les temps, et ça n'a jamais cessé. Et les informations que nous pouvons avoir aujourd'hui, les actualités, et peut-être plus précisément, eh bien, nous prouvent encore que eh bien, les choses sont toujours semblables. L'un est nommé Abel, je viens de donner naturellement la signification de son nom, et l'autre, Caïn. Et il va y avoir deux lignées dans l'histoire des hommes vivant sur la terre qui vont eh bien, apporter un témoignage de bien pour l'un et de mal pour l'autre, de justice pour Abel et d'injustice eh bien, pour son frère. Je voudrais également préciser quelque chose, parce que derrière cette violence, derrière le meurtre entre deux frères, parce que c'est quand même des frères de sang, on peut peut-être dire cela, eh bien, il y a au cœur de tout cela le fait religieux, parce qu'il est question d'un culte, il est question d'offrande, il est question d'être agréable à Dieu. Et c'est ça justement ce qui nous interpelle. Alors, et c'est aussi une grande perplexité parmi les hommes, la religion est-elle, eh bien là, un vecteur d'amour ou de haine? Et c'est Dieu qui est au centre de tout cela, naturellement. Et cette haine, eh bien, là, trouve dans le cœur des hommes, particulièrement de Caïn, eh bien, un problème, aussi un autre problème qui vient s'ajouter, qui est le vecteur principal, qui est en quelque sorte l'étincelle, Et bien la cause, eh bien c'est la jalousie, tout simplement. La jalousie qui est accompagnée d'un mouvement de concurrence entre les hommes, entre les religions, entre ce déchirant en quelque sorte pour plaire à Dieu. Et nous voyons qu'il y a naturellement, eh bien dans notre monde d'aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Au contraire, ça s'est peut-être même épaissi, si je peux prendre l'expression, à travers eh bien, diverses religions. Et nous savons que eh bien, Jésus n'est pas venu pour diviser les hommes, pour les morceler dans tel ou tel eh bien, là, compartiment, mais il est venu pour les unir. Et les unir non pas sur des théories, des théologies, toutes sortes de choses doctrinales, mais il est venu les unir eh bien, autour de sa personne. Et nous voyons que la jalousie, la concurrence, les rivalités, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et je vais apporter brièvement eh bien, quelques éléments. Et j'aimerais également, justement, puisque je l'ai dit tout à l'heure dans le départ, il y a là quelque chose de très important, me semble-t-il. J'ai titré d'ailleurs ce message « Les autels du pseudo-christianisme ». C'est-à-dire qu'il y a naturellement dans son ensemble multitude de religions, chacun se réclame son Dieu, chacun se réclame ses pratiques, chacun se réclame de ses croyances, mais j'aimerais le situer particulièrement dans le cadre qui nous importe pour nous, c'est le christianisme de toute manière, quoi qu'il en soit. Alors, je parlais tout à l'heure de parole de Dieu. Dieu a parlé à Adam et Ève. Dieu, eh bien là, en effet, a parlé à Caïn après le meurtre. Et ce meurtre a été causé par une offrande, en quelque sorte, par un culte, de vouloir complaire à Dieu. Et c'est véritablement le paradoxe. Il y a dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 11, eh bien, ce passage qui nous renseigne sur la vigilance, sur la prudence, sur l'intérêt que nous portons à ce que Dieu nous dit, et non seulement de l'entendre, mais véritablement de le vivre dans les dispositions que Dieu veut mettre dans notre cœur pour que nous puissions vraiment l'honorer. Ce n'est pas de faire des offrandes de ceci et cela, ce n'est pas d'apporter, eh bien là, comme nous allons le voir, un sacrifice d'un animal, ou le sacrifice des prémices des moissons, ou de je ne sais quel travail produit de la terre. Ce n'est pas ça. Mais c'est véritablement Dieu va regarder les hommes, il va observer les hommes dans ce qui ne se voit pas en quelque sorte. Parce qu'on peut faire les choses de l'extérieur, on peut laisser une apparence de l'extérieur. Jésus condamnera particulièrement les pharisiens avec leur attitude, leur posture extérieure, alors qu'il va dévoiler le fond de leur cœur. Et là nous avons deux hommes, un homme au cœur droit, Abel, et un homme qui est quelque part trouble. C'est quelqu'un qui n'est pas franc, comme on pourrait dire, franc du collier, hein, et qui, quelque part, va donner une apparence, mais Dieu voit tout. Et il connaît toutes choses. Alors, nous pouvons ajouter ceci. Alors, ce texte, dans Actes chapitre 17, serait celui-ci. Il nous est donné un compte-rendu quand les apôtres vont partir en mission, et ils vont aller de ville en ville pour prêcher l'Évangile, pour prêcher Jésus-Christ. Et dans ce texte, il est dit, « Ces Juifs de la ville de Béret, c'est une ville du Moyen-Orient qui se trouve dans les confins de la Turquie aujourd'hui. Alors ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que les autres, en quelque sorte. Ils avaient l'âme d'Abel, si nous pouvons dire. Ils avaient des sentiments plus nobles que les autres. Ils reçurent la parole des apôtres, le message de l'Évangile, avec beaucoup d'empressement, beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect, et en conséquence, ils examinaient chaque jour les écritures qui leur étaient proposées pour voir si ce que l'on leur disait était exact. C'est ça l'intérêt. Et je crois que ça nous confronte avec toutes ces religions qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus-Christ, qui se servent de la Bible comme fondement et base, mais où vont-ils et est-ce qu'ils vont encore plus loin que la superficialité de leur piété, qu'ils connaissent peut-être, eh bien là, les textes, mais vivent-ils réellement ce qu'il leur est dit? Toute la question est là. Alors, en observation, nous pouvons finalement voir que dans ce texte, nous le comprenons à travers les lignes, que Dieu porte son regard d'abord sur les personnes et ensuite sur les offrandes. Parce qu'on peut toujours monter, si on peut dire, à Jérusalem, on peut toujours aller au culte, on peut toujours aller à la messe, on peut toujours aller, à la mosquée ou au temple, dans d'autres religions orientales. Et ce n'est pas le fait d'y aller. Ce n'est pas le fait de dire, moi je suis reconnu, j'ai la réputation d'être un bon chrétien, en prenant cet exemple, et tout le monde me connaît pour être pieux, tout le monde me connaît pour être fidèle. Mais ce n'est pas la question. Tout cela, ce sont des apparences. Parce que si on y va dans d'autres dispositions, et nous voyons que, il nous est dit que Dieu porte un regard sur les offrandes de l'un et de l'autre, mais il porte un regard beaucoup plus perçant, beaucoup plus pertinent sur ce qu'il y a dans le cœur. Et ça, je crois que Jésus le dira et le redira à travers des paraboles, il le redira à travers tout son message de l'Évangile, parce que ce n'est pas de le dire, ce n'est pas de le confesser, c'est de le vivre. Mettez en pratique la parole, dit Jacques. Donc Dieu porte son regard d'abord sur les personnes et ensuite sur les offrandes. Et que voit Dieu dans cette affaire? Il voit deux hommes, il voit deux frères. Et ça va mal tourner cette histoire. Le cœur avant les actes. Parce que tout vient, soit par la parole, les bonnes choses viennent de ce qu'il y a dans notre cœur et puis ils s'expriment à travers des mots. Mais une chose qui est certaine, c'est que le cœur est directeur dans cette affaire. Et si le cœur est bon, si l'arbre est bon, le fruit sera bon et le cœur sera bon. Mais si c'est le contraire, on en connaît les résultats. L'essentiel de la motivation, c'est-à-dire le pourquoi, mais avant tout dans quel état d'esprit. Les choses sont présentées de cette manière, nous faisons et nous agissons. C'est à l'exemple de ces deux frères, à l'exemple de notre vie qui est la nôtre aujourd'hui, à l'exemple de notre démarche chrétienne, c'est avant tout comment nous agissons avec ce que nous savons, avec ce que nous connaissons, avec ce que Dieu nous demande en quelque sorte, parce qu'il n'attend pas des discours, il n'attend pas là des proclamations, des professions de foi, des choses comme ça, il attend que nous le vivions dans le quotidien en quelque sorte. Alors nous allons examiner le cœur d'Abel. C'est important parce que on va tout de suite comprendre ce que ça veut dire, le cœur d'Abel. Abel a compris le sens de la faveur divine, et ça c'est important. Dans le livre des Hébreux, écoutons quelques instants, il nous est dit ceci, parce qu'il est parlé d'Abel, dans le livre des Hébreux, le Nouveau Testament, il nous est dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par la foi qu'il parle encore, quoique mort. Le témoignage d'Abel est un témoignage perpétuel. Non pas parce qu'il a fait des choses extraordinaires, mais c'est parce qu'il a été dans cette vie courte, puisqu'il est appelé souffle, et bien conséquent. On pourrait dire qu'il a été entier. Le cœur d'Abel était entièrement pour Dieu. Et nous voyons que la récompense, c'est qu'il a été tué. Quelle injustice! Quelle chose complètement abominable! Mais il nous est répété dans ce petit verset trois fois, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il a offert à Dieu un sacrifice. C'est par la foi qu'il a été déclaré juste. C'est Dieu qui le déclare juste, c'est pas lui qui s'est déclaré juste. Comme beaucoup s'illusionnent parce qu'ils portent un titre, ils portent un nom de chrétien, mais c'est pas ça ce qui nous justifie. Et nous voyons que c'est par la foi encore qu'il rend témoignage, qu'il nous rend témoignage encore aujourd'hui, que la justice, que la vérité, que l'amour, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Donc, la faveur divine, comment peut-on l'appeler? On va y trouver un nom d'ici quelques instants, je vais vous la dire. Abel est un visionnaire. Il ne vit pas comme les croyants charnels, c'est-à-dire mangeons et buvons car demain nous mourrons. On peut avoir cette mentalité tout en étant chrétien. Les choses matérialistes, les choses de la terre, les choses qui appartiennent à notre environnement, Et puis après, on verra bien. Il est visionnaire, c'est-à-dire qu'il a une autre dimension dans son cœur et devant ses yeux. Parce qu'il est visionnaire, parce que l'agneau qu'il offre, il est prophète aussi, on pourrait dire, l'agneau qui est offert est un acte de prophétie, un acte prophétique qui rappelle comment, d'abord comment, et de quoi Adam et Ève ont été revêtus dans leur nudité, de la peau d'un animal, et j'ajoute sacrifié. Et ça, c'est une anticipation, c'est une préfiguration, en quelque sorte, de ce que Dieu ferait, non pas avec un agneau, mais avec son propre fils, la personne de Jésus, qui serait sacrifié comme victime expiatoire, rédemptrice à la croix du calvaire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que nous voyons des siècles et des siècles auparavant que Abel avait déjà, au fond de son cœur, sans connaître, sans savoir vraiment, mais ce sentiment, ce pressentiment, que Dieu, pour sauver les hommes, les sauver de toutes ces choses, la violence, la guerre, la maladie, la mort, etc., il y aurait le sacrifice d'un être vivant qui ne serait pas un animal cette fois-ci, mais qui serait un homme, et pas n'importe quel homme, le Saint, le Fils de Dieu, la personne de Christ. Et nous voyons que, eh bien, ils ont été couverts, nos premiers parents, avec une feuille de figuier, et ils ont été revêtus d'un habit, mais qui a été pris sur la vie d'un animal qui a été dépouillé et qui leur a servi de vêtement, en quelque sorte. C'est ce qui nous est dit. Je ne rentre pas dans les détails du livre de la Genèse, hein, mais vous connaissez, vous pourrez toujours le relire, c'est au chapitre 3, versets 7 et 8, et verset 21. Dieu a trouvé un substitut, et c'était tout simplement, eh bien, prophétique. Nous allons voir maintenant le cœur de Caïn. On a dit des choses sur Abel, mais le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn, c'est celui qui offre le produit de son travail. Abel n'a pas travaillé, il était laboureur. Il était tout simplement là, éleveur, en quelque sorte. Hein, il élevait des moutons, des troupeaux, enfin, je ne sais pas, hein, toutes sortes de ce genre. Alors, nous voyons qu'il offre le produit de son travail, c'est-à-dire de ses œuvres laborieuses, soit un état d'esprit légal. J'ai travaillé, Seigneur, j'ai donné ceci, j'ai travaillé à la sueur de mon front, j'ai fait ceci et cela, etc., etc., alors maintenant tu dois me récompenser. C'est l'image du mérite et de la récompense. J'ai bien dit tout à l'heure qu'Abel, c'était le résultat, le fruit de sa foi. Il n'a rien fait, il a cru. Alors que Caïn, eh bien nous voyons que c'est ce travail qu'il offre à Dieu en disant, tu sais, tu peux me récompenser maintenant. Tu peux me donner parce que je veux ta bénédiction, mais je la mérite, ta bénédiction. Tout simplement, un état d'esprit légal qui recherche une récompense et qui recherche une approbation. Et nous voyons que ce genre de démarche, et ça va être à l'origine du crime, ce genre de démarche dans l'esprit, dans le cœur de Caïn, va le rendre susceptible, va le rendre, eh bien là, en quelque sorte, irritable. Il va vivre une frustration, parce que dès qu'il va s'apercevoir que Dieu regarde favorablement l'offrande gracieuse d'Abel, et il va approuver l'offrande d'Abel, quand il va voir que Dieu regarde son offrande, et là, il va y trouver du mécontentement. Parce que c'est les deux bases du message universel de la Bible, particulièrement marqué par l'Évangile, où c'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est par la foi, afin que personne ne se glorifie. Et nous voyons que là, eh bien, va s'enclencher la guerre, le sang, les violences, et autour d'une question religieuse. Si l'on peut dire, un fait religieux en tous les cas. La foi ou le mérite, la foi ou les bonnes œuvres. Nous sommes dans un pays d'obédience catholique où nous voyons que il y a non plus la foi mais des croyances dans toute une multitude de choses qui fixent et qui captent le cœur des hommes et leur esprit, leur conscience, alors que quelque part, nous savons que l'essentiel, eh bien, c'est la foi, la grâce, comme je viens de citer le texte tout à l'heure. Nous avons une belle image, si je peux dire quelques mots encore sur ce sujet du cœur de l'un et du cœur de l'autre. C'est l'image du fils prodigue dans la parabole que Jésus nous donne dans Luc, au chapitre 15. Et nous voyons que c'est vraiment un état d'esprit. Le fils prodigue fait les 400 coups. Il quitte la maison de son père. Et puis, à un moment donné, il revient parce qu'il est touché par l'appel de l'amour pour son père et de revenir à la maison. Alors il revient, le père lui fait grâce. Le père le prend dans ses bras, il l'embrasse, il le dote finalement de tout ce qu'il a perdu dans ses aventures impossibles, improbables. Et nous voyons qu'il fait un grand festin à son père, l'image de Dieu naturellement. Un grand festin, mon fils qui était perdu est revenu maintenant. Et voilà que le fils aîné, lui voit ça. C'est la même mentalité que Caïn. Hein. Il voit ça, il dit, mais c'est quand même pas normal. Moi, je suis resté à la maison, j'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai servi mon père jour et nuit, etc., etc. Hein, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais j'ai bossé, et finalement, eh bien, j'ai rien, moi, j'ai pas la fête. Et son père va voir son mécontentement, son irritation. Il est furieux, ce fils aîné. Et le père va le voir, il va venir le voir en disant, mais tout ce que j'ai, eh bien, est à toi. Mais tu n'as peut-être pas voulu en profiter, tu n'as peut-être pas voulu vivre dans ma faveur et dans ma grâce. Alors tu es fâché parce que j'ai pardonné à ton frère, parce que je l'ai absous de ses fautes, je l'ai pris, mais je t'aime autant que ton frère qui est revenu, le fils prodigue. Il n'y a pas de différence. Alors il nous a dit qu'il s'est mis dans une fureur pas possible. Il s'est mis dans une colère impossible et il est sorti, il a claqué la porte et il est parti. Tout simplement. Hey, Caïn est derrière, hein. L'irritation, la susceptibilité, la jalousie, la concurrence, la rivalité, tout cela est devant nous, là. C'est un état d'esprit. Et nous voyons que le monde s'est séparé en deux états d'esprit. L'esprit de la grâce, la foi, et l'esprit de la concurrence et de la rivalité. Et je le répète, autour de cette question, l'un et l'autre cherchent à plaire à Dieu. C'est terrible. Alors nous allons donner quelques applications et quelques comparaisons, si vous voulez bien. Abel, je le dis et je le redis parce que c'est très important ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, Abel représente la foi spirituelle. Je dis bien la foi spirituelle, la foi dans l'esprit. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité, dira Jésus dans l'histoire de la Samaritaine. La foi, ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une forme de superstition, ce n'est pas une forme, je ne sais pas, de sensation, d'émotion, enfin, tout ce que l'on veut. Caïn, eh bien, représente la religion hors de l'inspiration de l'esprit. Et religion et vie de l'esprit, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que Jésus donnera cette, uniquement un seul texte, celle pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître de l'esprit et non pas être baptisé dans tel ou tel édifice religieux et qui fait de vous, et bien là, non pas un chrétien, parce que ce n'est pas ce qui fait un chrétien. Être chrétien, c'est le vivre. Mais faire un disciple ou tout simplement un suivant d'une religion qui se caractérise par ceci ou cela. Donc, Caïn, c'est l'homme de la religion, c'est l'homme religieux. C'est l'homme charnel, et ça lui suffit, il se contente de tout cela. Et il y a toujours, dans la religion, la loi. Et dans la vie de l'esprit, la foi. La foi et la grâce. Mais nous voyons que, en ce qui concerne Caïn, c'est la loi. Tu m'as supplanté, alors la loi, je te tue. Je te fais disparaître. On ne peut pas vivre dans le même monde. Et quand on voit toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à nos dernières guerres, jusqu'aux guerres d'aujourd'hui, lorsque nous voyons le Moyen-Orient en flammes, lorsque nous voyons dans certains pays l'éviction de certaines catégories de population, je pense en Birmanie et puis dans bien d'autres choses. Mais c'est ça finalement. Parce que l'esprit c'est l'amour. L'esprit ce n'est pas autre chose que les bonnes dispositions. Alors que la religion, pour un oui, pour un non, eh bien, fait couler le sang, les violences. On a vécu dans notre pays, notre propre pays, dans l'Europe, la fin du Moyen-Âge, eh bien, on a vécu véritablement ce qu'on a appelé les guerres de religion. Les Caïn et les Abel, d'une manière ou d'une autre. C'est une comparaison peut-être éloignée, mais c'est quand même une vérité. L'univers des croyances et des religions humaines qui se déclinent par tous les ismes. Vous savez qu'en géographie, un isme, c'est un bout de terre qui va nulle part. Quand vous êtes au bout, vous êtes obligé de revenir. Hein ? Un isme de ceci, de cela, etc. On l'a appris naturellement à l'école. Et quand on compare, et là je ne vais pas faire de favoritisme, mais quand on parle du catholicisme, du protestantisme, quand on parle du judaïsme, de toutes sortes de choses, du bouddhisme, ça finit toujours en isme. Et en isme, vous y allez, vous arrivez au bout, et vous êtes obligé de revenir. Parce que c'est une voie sans issue, tout simplement. Alors, on comprend que les Béréens, pour revenir à nos personnages que nous avons cités, eh bien, il nous est dit qu'ils examinaient les Écritures pour savoir si tout ce qu'on leur disait était exact. C'est une droiture, une rectitude de cœur, et ça, je pense que nous sommes interpellés. J'aimerais voir maintenant quelques caractéristiques évidentes, eh bien, de ce que j'ai titré tout à l'heure, en quelque sorte, les croyances, on pourrait peut-être dire ça, les autels, les édifices, eh bien, tout ce que l'homme a conçu du pseudo-christianisme. Alors, on va s'y reconnaître parce que, bon, on a été élevé aussi dans certaines formes et certaines conceptions. Donc, ces caractéristiques évidentes, premièrement, sont leur expression cérémonielle qui se meut ou qui meut ou qui, là, eh bien, évolue dans un climat confiné et codé. Pendant des siècles et des siècles, pour parler au peuple, on a parlé en latin. Hein, aujourd'hui, ça s'est quand même nettement amélioré, parce que on comprend hein, naturellement. Mais tout est quelque part une partie secrète, une partie ténébreuse, une partie qui n'est pas la pleine lumière. Jésus a parlé d'une manière très claire. Il n'est pas monté en haut d'une estrade, dans un édifice somptueux, pour dire, eh bien voilà, ceci, cela, je vous parle de ceci et de cela, et avec tout un environnement musical, un environnement olfactif, vous voyez ce que je veux dire ? Un environnement à travers l'or et l'argent pour faire passer son message. Hein. C'était tout à fait donc confiné, codé. Qui fait un mot que nous connaissons bien aujourd'hui, c'est le communautarisme. Eh oui, on est entre soi. Les autres, ils ne sont pas de la famille. Les autres ne sont pas intéressants, ils ne sont pas comme nous, parce que nous sommes les seuls à connaître la vérité. Donc, un communautarisme spécifique. Et chacun se réclame. Moi, je suis ceci, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Paul. Enfin, pour reprendre déjà les choses qui eh bien, existaient déjà dans l'Église primitive. La deuxième chose, que c'est un petit monde étroit. Ce n'est pas l'ouverture de cœur. Ce n'est pas l'ouverture intellectuelle. Mais c'est un monde étroit et obligé, c'est-à-dire que vous faites partie, vous faites comme tout le monde, et attention si vous sortez dans la marche. Parce que ça, c'est dangereux, vous allez vous perdre. Et puis, c'est pas bien vu, naturellement. Un système étroit qui a été établi, codifié, un système empirique. On ne change rien, et parce que ça fait partie de l'histoire, eh bien, ça fait partie, finalement, de la Bible, de la légende, quitte à y mettre des contes et des légendes, naturellement pour essayer d'améliorer la foi et de la rendre un petit peu plus attractive, hein, soi-disant. Rien ne peut et ne doit changer, tout est codifié. Et c'est dans toutes les religions. On a eu l'occasion de voir comment ça se passait chez les orthodoxes, chez les catholiques, voire même chez les protestants. Oh oui, ça c'est certain, et on peut quelquefois se remettre en cause par rapport à nos pratiques, tout est codifié. La troisième chose, c'est que la vie se résume, c'est une réduction. Ce n'est pas la liberté que Jésus nous promet, quand il est dit ceci, que là où est l'esprit, là est la liberté. Attention, hein, c'est le contraire. Hein. Ça se résume à des phrases et des discours pieux et formulés, parce qu'il y a un code, parce qu'il y a des mots à dire et des mots qu'il ne faut pas dire, comme si Dieu n'arrivait pas à comprendre, parce que le Seigneur comprend ce qui se passe dans le cœur, et ce n'est pas sur les lèvres. Vous multipliez une foule, finalement, de mots Vous en faites des récitations qui n'en finissent point, mais ce que tu regardes, c'est la position du cœur, donc des phrases et des discours pieux et formulés. Ça se manifeste également par le mouvement qui est précadré à des gestes mesurés. Tel moment de l'office, telle chose, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et on fait ça continuellement, à chaque fois qu'il y a réunion, où il y a célébration, il faut faire les choses comme ça, et pas autrement. Geste mesuré. Il y a un dogmatisme ombrageux. Il faut aussi le dire. Parce que ce qui a été défini, peut-être à partir de quelques émanations de la Bible, alors à ce moment-là, on a fait des dogmes. Des dogmes qui n'ont rien à voir avec l'Écriture, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a déclaré, qui n'ont rien à voir avec les messages apostoliques de ceux qui ont pris, finalement poursuivi Jésus. Et le dogmatisme amène le sectarisme. Le sectarisme qui, finalement, y est satisfait, il est exclusif. Hors de l'église, hors du clocher, hors de la chapelle, hors de la cathédrale, hors de la mosquée, hors de ceci et cela, il n'y a pas de salut. Il est exclusif. Et puis, dogmatisme, sectarisme, ritualisme. Ritualisme y est très pointilleux. Jésus le dira aux pharisiens. Il dira, vous payez la dîme de ceci, de cela, etc., mais vous oubliez l'essentiel, l'amour et la miséricorde. Ça, c'est ce que Jésus dit. Hein. Un ritualisme sacrificiel et sacrementiel, ou sacramentalisé. C'est-à-dire que on scelle les choses à travers, eh bien là, certaines pratiques, et on dit c'est sacré. Il y a des pratiques qu'on se souvient. Hein, mais il y a deux, on pourrait dire, deux choses importantes. Il y a le baptême chrétien et il y a la Sainte Cène. Et les hommes en ont inventé des autant qu'on puisse imaginer. Et on a dit, si vous n'avez pas le sacrement, eh bien vous êtes perdu. Et puis bien d'autres choses. Si ça ne dérange pas, permettez-moi d'ajouter ceci, les élucubrations philo-religieuses, philosophiques et religieuses enserrées dans l'obligation de pratiques ultra-légalistes. C'est-à-dire qu'attention, si monsieur ne vient pas avec sa cravate et que madame ne porte pas de bas pour venir au culte, c'est un scandale. Si véritablement, excusez-moi, ça c'est les vieilles histoires de chez nous, hein, mais on s'aperçoit qu'on en a fait un légalisme, si vous mangez de ceci, si vous ne mangez pas de cela, etc., etc., mais c'est un péché contre Dieu. Si, par exemple, vous ne venez pas à une réunion ou à un culte pour des raisons qui vous sont propres et personnelles, alors vous avez perdu votre salut. Et puis toutes sortes de choses, le légalisme, et c'est quelque chose qui peut convenir à l'individu pour lui-même, mais obliger les autres à faire ce que vous, vous faites, et en les menaçant de jugement et de punition de Dieu, alors là, ça devient véritablement un péché. Ça devient véritablement quelque chose de terrible. Cet ultra-légalisme conditionné par la crainte des hommes et le jugement de Dieu. Attention, Dieu va te punir. Attention, parce que vous allez être exclu. On va vous excommunier, etc., etc. Parce que c'est vrai que le faux pas devient excommunicatoire. C'est difficile à dire tout ça, hein. C'est des mots assez difficiles. Je poursuis rapidement. C'est la modification de la conscience. C'est-à-dire que la conscience pure, la conscience sainte et saine, a été complètement tripotée. On ne sait plus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et voilà que finalement, cette modification de la conscience, celle-ci nous captive dans la culpabilité. Et il y a des hommes, religieusement, qui sont captifs toute leur vie en disant « je fais bien, je fais mal, je ne sais plus où j'en suis, j'ai peur de ceci » qui va développer finalement, et bien là, une condamnation permanente et des craintes et des peurs, voire même de l'angoisse. Il y a également, j'arrive au bout, l'identification marquée à un lieu, c'est dans ce lieu, Saint-Jacques 2, hein, Lourdes, Fatima, je crois, oui, c'est... peu importe, je n'ai pas la mémoire de tous les noms. Ça se focalise sur des objets, des reliques, Alors les reliques, ce sont des ossements, hein, ce sont des vêtements ou toutes sortes de choses que l'on a sacramentalisées, naturellement. Et de dire, eh bien, il y a des millions et des millions de gens qui vont dans tel endroit parce que c'est cet endroit-là, parce qu'il faut toucher à ceci, il faut toucher à cela. Hein, et ça peut être une église, ça peut être une chapelle, ça peut être une cathédrale, ça peut être un temple, c'est un sanctuaire, ce sont des autels, ce sont des pierres levées, en tombant peut-être dans un vieux paganisme, des maisons prétendues de Dieu, dédicacées parce qu'elles ont été bénies. Ça, c'était l'Ancien Testament. Vous savez, il y a cette parole... si vous m'accordez un petit instant supplémentaire, quand je dis un petit instant, quelquefois c'est un peu plus long avec moi, mais bon, toujours est-il que peut-être on est parti dans cette discussion, ça peut être intéressant, ça peut renseigner naturellement. Dans le livre des Actes au chapitre 17 et au verset 22, il est dit cette parole, tout simplement, c'est Paul qui se trouve à Athènes, il dira, mais en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, de votre foi païenne, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le plein évangile à travers la personne de Jésus-Christ. C'est moi qui l'ajoute. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Voilà ce qu'il nous est dit. Que Dieu n'est pas renfermé dans une petite boîte. On ne le renferme pas dans, peut-être aussi somptueuse soit la boîte, qu'elle s'appelle église ou chapelle ou tout ce que vous voudrez, même si elle est faite de tous les plus beaux ornements, même si elle est conçue dans l'or et dans l'argent, avec l'art des hommes, avec les capacités géniales peut-être des hommes, et tout ça pour plaire à Dieu, comme Caïn, Seigneur, voilà. Il ne faut pas oublier que ceux qui sont dotés de dons et de talents, c'est encore Dieu qui leur a donné. Hein. Comme c'est Dieu qui a donné la terre pour qu'elle produise des légumes à Caïn. Voilà. D'une manière ou d'une autre, tout vient de Dieu. Hein. Alors, nous voyons que tout cela eh bien, est une réalité dans notre monde. Mais il y a la quasi-absence, référence et d'écoute à la parole de Dieu. Parce que si nous avons besoin de tout ça pour honorer Dieu, écoutons ce qu'il a à nous dire, soyons attentifs et vivons-le. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Qu'est-ce que les hommes se sont compliqués la vie à travers les religions, à travers des dévotions, à travers des sacrifices, à travers des mortifications, toutes sortes de choses, quasi absence de la parole de Dieu intégrale, selon l'injonction que Paul nous laisse, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En quelque sorte, la loi, elle tue. Elle ne rend pas heureux, elle n'apporte pas la paix. Elle n'apporte que du tourment, du trouble, de la concurrence, de la rivalité avec les autres, parce qu'il ne fait pas comme moi, ou moi je ne fais pas comme lui, etc. Et je suis quelque part, peut-être sans être un Caïn en puissance, mais quelquefois avec des mauvais sentiments. À commencer par les critiques, tout simplement. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La vie, c'est ce que Dieu nous dit. Parce que c'est une parole qui est vivante, et si elle est vivante, elle donne la vie. Or, sans nouvelle naissance, comme Jésus nous parle, dans l'évangile de Jean, plus d'horizon de vie et de liberté. On le sait, je l'ai dit tout à l'heure. Le traditionnalisme englue, il englue les croyants et les tient prisonniers. Ça plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et on se donne des libertés, le mensonge, la vérité, enfin toutes sortes de choses. Et une fois qu'on a fait le mal, eh bien on est culpabilisé de l'avoir fait. Et on se demande comment le rattraper. On se demande comment se racheter. On se demande comment compenser. Il y a des choses qui sont simples dans l'Évangile. Tu as péché, tourne-toi vers Dieu. Tu te repens, tu prends conscience que tu as besoin de son pardon et tu acceptes son pardon et tu repars, tout simplement. Quant aux tenants, les enseignants et les faux docteurs de ces prétendues religions chrétiennes, alors, faux docteurs, parce qu'il en est parlé dans la Bible, faux docteur de ses croyances, voilà comment Tite en parle. Et Tite, c'est un pasteur dont nous avons le nom dans un livre du Nouveau Testament. Il en parle de cette manière. En parlant de ces faux docteurs, en parlant de ces faux enseignants, en parlant de ces prêtres ou serviteurs de ces religions qui ont été édulcorées, qui ont été trafiquées, Il dira, ils prétendent connaître Dieu, bien sûr, ils ont même la vie pour se faire reconnaître, ils ont même peut-être toutes les formes extérieures, ils prétendent connaître Dieu, ils se font identifier comme ça, mais leur conduite renie le Seigneur, et ils renient leur Seigneur par leurs actes qui démentent tout simplement leur profession de foi. Et Jésus dira, ce sont des hypocrites. Ah oui, hypocrites, type pharisien, comme on voit le duel permanent entre Jésus et les pharisiens, et Jésus rempli de miséricorde et de compassion pour les prostituées, pour les gens de mauvaise vie, etc., qui eux vont se repentir, eux vont se remettre en cause, et eux vont demander pardon, que Dieu leur pardonne, et qui vont commencer une nouvelle vie, tout simplement. Et Paul d'ajouter, ayant l'apparence de la foi, mais reniant ce qui en fait la force. Ouais, c'est pas l'habit qui fait le moine. Non, non, pas du tout. La conclusion serait la suivante. Régénération par l'esprit, c'est le type même d'Abel. Il va mourir pour revivre. Eh oui, parce qu'il nous dit que le témoignage subsiste encore aujourd'hui. Abel n'est pas mort, il est mort physiquement. Mais il a été justifié, on l'a lu il y a un instant, qu'il a été justifié par Dieu parce que finalement, eh bien, sa vie a été considérée par Dieu comme une vie juste par la foi, tout simplement. Et alors que Caïn, c'est de l'auto-régénération. C'est deux choses différentes. Abel a été régénéré par l'esprit, par une vie nouvelle. Il est mort, mais il vit. Alors que Caïn, meurtrier de son frère, eh bien, a voulu se racheter par des œuvres, par des mérites, par toutes sortes de choses, et c'est ce que font encore les religions. Il ne s'agit pas de modifier quelques formes extérieures, des formules ou autres rites, mais une vraie transformation du cœur. Jésus dira à Nicodème, l'homme ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau, une transformation intérieure. Vous savez ce que nous dit Jean ? Et je termine sur ça. Il dira à ces pharisiens, il dira à cette religion judaïque qui était empesée, qui était complètement écrasée sous des fardeaux de lois, de commandements, de préceptes, il dira ceci. Vous, les religieux, vous sondez les Écritures. Ah ben bien sûr, il y avait des scribes, il y avait des érudits, il y avait toutes sortes de gens qui avaient naturellement une connaissance cérébrale. Une connaissance intellectuelle des Écritures. Ils passaient leur vie à ça d'ailleurs. Hein. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie. Parce que vous pensez. Il n'est pas dit vous croyez. Vous avez la certitude, vous avez une conviction. Vous pensez avoir la vie éternelle. Eh bien, Jésus continuera, il dira, mais ce sont les Écritures mêmes qui rendent témoignage de moi. Regardez, ouvrez la Bible, suivez mon exemple. Recevez mes commandements, vivez comme j'ai vécu, montrez finalement la démarche et le chemin de l'amour, le chemin de la considération et du respect des autres, à travers l'acceptation de ceux qui sont différents, de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas la même religion. C'est ça la question. Parce que les hommes sont tous créatures de Dieu, et Dieu aime tous les hommes. Mais vous les haïssez. Et comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu et que vous haïssez votre frère humain, naturellement? Alors, ils rendent témoignage de moi, et pourtant, malgré vous, ce que vous savez, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, religion, amour ou haine, la jalousie, la concurrence, les rivalités, la moralité de cette histoire, je terminerai tout simplement par une simple pensée. On ne change pas le cadran ou les aiguilles d'une montre qui marche mal, on en change le mouvement. Et s'il y a quelque chose qui doit changer, ben c'est notre cœur. Le mouvement de notre vie, de notre souffle. Abel, souffle. Souffle court, parce que sa vie a été courte. Mais le mouvement, quelque part, c'est notre cœur. Et tout vient de là. C'est pas mes mains, c'est pas mes pieds. Eux, ils sont simplement, eh bien, là, instinctivement, à suivre eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même. Alors on peut toujours aller voir l'horloger en disant « Voilà, ma montre ne marche plus, elle marche mal, je ne peux pas aller coincer. » Alors qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on va changer les aiguilles et le cadran? Il va vous dire « Mais ça ne va pas. » C'est pas comme ça qu'on fait. on va ouvrir la montre, on va aller au cœur de cette montre et on va changer le mouvement, tout simplement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et puis, je vous souhaite bon courage et que le Seigneur, eh bien, nous donne là de comprendre les Écritures. Vous pensez avoir la vie en recevant les Écritures, en lisant la Bible, l'Évangile, mais une chose qui est certaine, alors venez et vous aurez la vraie vie, la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse.